Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Abdourahmane Dia en direct de Washington pour cette édition de 17h30 temps universel. Nous sommes jeudi 28 décembre 2017 au sommaire. 5 soldats maliens tués dans une explosion de mine dans le centre du pays. Les premiers résultats du second tour de la présidentielle au Libéria attendus aujourd'hui. L'Italie va déployer près de 500 soldats au Niger, pays par lequel transitent de nombreux migrants vers l'Europe.
Nous sommes un pays entouré de foyers de tension, de foyers ou en cas de poches de terrorisme.
Le ministre nigérien de la Défense que vous entendrez dans la partie magazine. En Centrafrique, le gouvernement réagit vigoureusement aux menaces du chef rebelle Nouridine Adam.
Voilà que nous allons apprendre à notre grande surprise que Nouridine Adam sort de l'ombre.
Reportage de Freeman Sipila à suivre également dans la deuxième partie de cette édition. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Et tout d'abord, le journal. Un militaire congolais et 6 miliciens Maï-Maï ont été tués dans l'attaque d'une localité dans l'est de la République démocratique du Congo à la frontière avec l'Ouganda. Des combats entre les forces armées de la RDC et des miliciens ont débuté tôt ce matin selon des témoignages d'habitants de Kassindi, localité du territoire de Beni dans la province du Nord Kivu. Le calme est revenu après plusieurs heures de combats aux armes lourdes et légères, a indiqué un officier. L'armée a le contrôle de la situation, a-t-il insisté. Situé à 80 km de Beniville, Kassindi abrite l'un des principaux postes douaniers de l'est du pays qui enregistre un important flux de marchandises en provenance de l'Ouganda. Le premier ministre centrafricain Mathieu Simplice Sarandji condamne les propos du chef de guerre Nouridine Adam qui avait traité le président Faustin Archange Touadéra de criminel et menacé de marcher sur Bangui. Nouridine Adam a déclaré que le président Touadéra est un criminel, mais qui est plus criminel que qui, a lancé le premier ministre sur la radio Ndeke Luka. La force de l'ONU présente en RCA depuis 2014 a déclaré de son côté qu'elle ne permettra pas que la paix et la stabilité du pays soient perturbées par qui que ce soit. Et nous reviendrons sur tout cela dans la partie magazine. Nouvelle manifestation de l'opposition au Togo. Les militants ont été dispersés à coups de grenades lacrymogènes. Mais l'opposition maintient son programme pour demain et samedi pour accentuer la pression sur le régime. Reportage à Lomé, Kay Lawson.
La manifestation de l'opposition de ce jeudi n'a pas pu chuter au carrefour commercial Décon comme c'était le cas le mercredi. À peine les manifestants sont arrivés à ce lieu et que l'un des responsables a pris la parole pour indiquer que rien ne leur interdit de tenir leur meeting à ce carrefour stratégique, que les premières détonations ont commencé par se faire entendre. Une pluie de gaz lacrymogène tombe sur la foule. C'est la débandade. Notons que les premiers responsables, notamment Jean-Pierre Fabre ou Brigitte Adjamagboka-Fuy-Johnson, n'étaient pas présents lors des incidents. Selon une source proche de la coalition, ils auraient pris la route pour Accra à l'invitation du président ghanéen. Selon le programme préétabli par la coalition, les manifestations se poursuivent vendredi et samedi. Kay Lawson, depuis le carrefour des camps à Lomé, pour VOA Afrique.
5 morts et 3 blessés, c'est le bilan d'une attaque contre des militaires maliens à la frontière Mali-Burkina Faso. Avant cette attaque, les forces armées maliennes avaient repoussé une autre attaque dans la région de Mopti. Ces deux attaques ont amené l'armée à renforcer ses positions avancées dans les régions de Mopti et Tombouctou. Kassim Traoré.
Boulkessi est une petite localité dans le cercle de Douanza, région de Mopti. La zone fait frontière avec le Burkina Faso. La position des soldats maliens qui se trouvent dans ce village a toujours fait objet d'attaques. Cette fois-ci, les militaires maliens n'ont pas été surpris par des tirs ennemis, mais c'est leur véhicule de patrouille qui a sauté sur une mine. 3 soldats maliens sont morts sur le champ. 2 autres ont succombé à leurs blessures quelques heures après l'attaque, ce qui fait un bilan de 5 morts morts et 3 blessés. Cette zone située vers la frontière du Burkina Faso a fait l'objet de plusieurs attaques depuis 3 à 6 mois. Avant Boulkessi, tôt le matin du jeudi 28 décembre 2017, des assaillants sur des motos ont attaqué l'agence Ecobank du cercle de Koro, toujours dans la région de Mopti. Avec la riposte des FAMA, ils n'ont pu emporter quelque chose. Suite à ces attaques, les militaires maliens ont commencé à renforcer leurs différentes positions avancées dans les régions de Mopti et Tombouctou, car des mouvements de groupes armés non identifiés sont en provenance de Burkina Faso, non loin de Boulkessi. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Les Libériens attendent de connaître leur nouveau président. Le second tour de la présidentielle de mardi a opposé la légende du foot et sénateur Georges Weah au vice-président sortant Joseph Boakai. La Commission électorale nationale doit publier aujourd'hui les résultats provisoires déjà compilés. Pour savoir l'ambiance avant l'annonce du vainqueur, Eric Manirakiza a joint à Monrovia tout à l'heure un ancien journaliste de la radio nationale ILBC. Il s'agit de Mohamed Kenneth.
Depuis deux jours, tout le monde attend. Les gens sont dans l'attente, les partisans du CDC aussi bien que les partisans du Parti d'Unité. Alors, on ne sait pas quels seront les résultats, mais il y a un calme précaire. On attend.
Mais la commission devait avoir annoncé des résultats provisoires. Pourquoi ça traîne?
Bien sûr, c'est des résultats provisoires que les gens sont en train d'attendre. C'est la Commission nationale électorale, la MEC. En anglais, NEC, dans quelques minutes ou bien dans une trentaine de minutes, disons. Et les résultats définitifs, je pense que ça sera vendredi ou samedi.
Vous sauriez pourquoi il y a eu du retard pour annoncer les résultats provisoires?
D'abord, ils avaient dit que c'était hier mercredi, donc mercredi est passé. Nous sommes jeudi. La NEC, ils ont leurs responsabilités, ils ont leurs préoccupations. Mais personne ne le sait, tout le monde attend.
Mais les radios locales publient des résultats. D'où tiennent-elles ces résultats?
Ces résultats proviennent de, comment on appelle ça, les procès-verbaux qui sont affichés par la NEC. Donc les radios locales, surtout la radio d'État, ELBC, et la radio privée qui appartient à l'homme d'affaires Moussa Beloté, Chouf FM. C'est pas tout que les radios annoncent qui seront prises en compte. Pas du tout.
C'était Mohamed Kenneth, ancien journaliste à la radio nationale ILBC au Libéria. Le président l'ancien président du Zimbabwe, Robert Mugabe, va bénéficier d'un logement, d'une flotte de voitures et de voyages en avion privé, conformément à un nouveau plan de retraite financé par le gouvernement et destiné aux anciens dirigeants, selon des révélations de la presse officielle. Monsieur Mugabe disposera également d'une équipe d'au moins 20 salariés, dont 6 gardes du corps, tous rémunérés sur les deniers publics. Une famille zimbabwéenne est bloquée depuis 2 mois à l'aéroport de Bangkok, une situation qui a ému de nombreux Thaïlandais en cette période de fête de fin d'année. Les 4 adultes et 4 enfants âgés de 2 à 11 ans tentent depuis la fin octobre de quitter la Thaïlande, mais ils ne disposent d'aucun visa pour se rendre dans un autre pays. Ils ne veulent pas rentrer au Zimbabwe.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au moins 41 personnes ont été tuées et 84 blessées selon une source gouvernementale dans un attentat suicide revendiqué par le groupe djihadiste État islamique contre un centre culturel chiite ce jeudi à Kaboul, la capitale où les attaques se multiplient. Salwa Jafari.
Scène de panique générale à l'hôpital Istiqbal de Kaboul. Des dizaines de victimes, presque tous des Harazas, l'unique ethnie chiite d'Afghanistan, pleuraient leurs proches. D'autres hurlaient contre le gouvernement, incapable, selon eux, de les protéger.
Cet infidèle devrait quitter le pouvoir et laisser un autre chien diriger le pays. Nous ne voulons pas de ce gardien infidèle. Nous ne le voulons pas.
Le centre culturel visé par l'attaque reçoit un soutien de l'Iran et est l'un des principaux centres chiites à Kaboul. L'attentat dans lequel les talibans ont rapidement proclamé n'être pour rien a aussi frappé l'Afghan Voice Agency, un média anti-État islamique dont les locaux sont situés dans le même immeuble. Cette explosion a été suivie de deux autres de moindre importance qui n'ont pas fait de victimes. Cet attentat est le plus sanglant depuis celui ayant visé une mosquée chiite en octobre qui avait fait 56 morts et 55 blessés, revendiqués par l'État islamique.
Les missions consulaires américaines en Turquie vont reprendre en totalité la délivrance de visas après une suspension provoquée par l'arrestation d'un employé consulaire. En Irak, des centaines de personnes ont manifesté dans le nord-est du pays ainsi que dans d'autres villes contre la hausse des prix, le chômage et le gouvernement du président Hassan Rouhani. La manifestation était illégale, mais la police s'est montrée tolérante, a déclaré le gouverneur de Mashhad, Mohamed Rahim Nourazian. Et puis l'Irak a prolongé jusqu'à la fin février l'interdiction des liaisons aériennes entre la région autonome du Kurdistan irakien et l'étranger. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Et on retrouve Eric Manirakiza. Cette fois, c'est pour la Minute Éco.
Le président angolais João Lourenço a autorisé le Crédit Agricole à injecter 500 millions de dollars dans les investissements publics en Angola. La trop forte dépendance au pétrole contribue à la dégradation de la situation socio-économique du pays depuis quelques années. Luanda souhaite donc diversifier son économie pour en améliorer les secteurs vitaux. L'Angola est l'un des pays les plus inégalitaires en Afrique et veut passer à l'horizon 2020 dans la catégorie des pays à revenus intermédiaires. L'Éthiopie reçoit de la Banque mondiale 470 millions de dollars pour deux projets. D'une part, un don de 300 millions de dollars pour renforcer l'accès et la qualité de l'éducation. De l'autre, un prêt de 170 millions de dollars pour augmenter la productivité dans l'élevage et la pêche. Ceci permettra d'accroître aussi la capacité de commercialisation des producteurs et des transformateurs et à renforcer les systèmes de prestation de services afin de répondre efficacement aux situations d'urgence. Enfin, le FMI octroie à l'Égypte plus de 2 milliards de dollars pour soutenir son programme de réforme économique. Ce décaissement représente la troisième tranche d'un prêt de plus de 6 milliards de dollars. Le programme mis en œuvre depuis 2016 vise à réformer le cadre réglementaire, renforcer la concurrence, améliorer l'accès au financement et à la terre. Il s'agit aussi pour les autorités égyptiennes de renforcer la gouvernance et la transparence des entreprises publiques, lutter contre la corruption et mieux intégrer les femmes et les jeunes sur le marché du travail.
Voilà, on passe tout de suite à la page des sports avec vous, Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane et bonsoir à tous.
L'équipe nationale de l'Ouganda a un nouvel entraîneur.
Tout à fait Abdourahmane, le français Sébastien Desabre a été nommé sélectionneur des Crânes pour une durée de 2 ans en remplacement du Serbe Milutin Radojevic, démissionnaire en juillet dernier. Âgé de 41 ans, Desabre entraînait précédemment le club égyptien d'Ismaïlia. Pour ses débuts, le technicien français dirigera l'Ouganda lors du CHAN Championnat d'Afrique des Nations, entendez par là, 2018, une compétition réservée aux joueurs africains qui évoluent sur le continent et qui débute au Maroc le 12 janvier.
Nouvel entraîneur également pour la Libye à moins 2 mois du CHAN.
Les Libyens ont fait confiance à Omar Al-Marimi pour conduire les Chevaliers de la Méditerranée au Maroc. La signature du contrat est intervenue alors que l'équipe a déjà entamé sa préparation. Dans le royaume chérifien, les Chevaliers de la Méditerranée, vainqueurs de la compétition en 2014, sont logés dans le groupe C avec le Nigeria, le Rwanda et la Guinée équatoriale.
Et la candidature commune États-Unis-Mexique-Canada pour l'organisation du Mondial 2026 est vue par certains comme un message positif.
Tout à fait, Abdourahmane. C'est le président de la FIFA, Gianni Infantino, qui l'a affirmé. Il a ajouté qu'accorder deux Coupes du Monde en même temps, celle de 2018 à la Russie et de 2022 au Qatar, a été une erreur. La candidature unique États-Unis, Mexique, Canada et celle en solitaire du Maroc sont les seules prétendantes à l'organisation du Mondial 2026. Le premier a rassemblé 48 équipes contre 32 en 2018 et 2022.
Et on termine par Ousmane Dembélé, qui est tout proche d'un retour.
C'est ce qu'a annoncé le site internet du FC Barcelone, son club, dans une campagne de promotion pour le prochain match des Blaugrana. Le Barça mise sur un retour de son attaquant français en Coupe du Roi contre le Celta Vigo le 4 janvier ou en Liga face à l'Eventé le 7. L'international français qui a repris l'entraînement collectif est absent depuis mi-septembre pour cause de blessure. Recruté pour 145 millions d'euros l'été dernier, Ousmane Dembélé s'est blessé en septembre à la cuisse.
Merci beaucoup Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, on passe au dossier du jour. Vive réaction de Bangui aux propos de Nourdine Adam, chef du FPRC, sur les médias internationaux menaçant de marcher de nouveau sur la capitale comme en 2013 avec la Séléka. Au cours d'une interpellation hier au Parlement, le chef du gouvernement a dénoncé des propos jugés irresponsables. Sur place à Bangui, Freeman Sipila.
Les réactions n'ont pas tardé après la publication d'une interview de Nourdine Adam dans les médias internationaux. Le chef de guerre du FPRC, Front Populaire pour la Renaissance de Centrafrique, aile dure de l'ex-rébellion Séléka, a menacé de marcher de nouveau sur Bangui, la capitale, comme en 2013. L'homme retranché à Birao dans le nord-est a par ailleurs qualifié le président Faustin Archange Touadéra de criminel. Propos vertement critiqués par le premier ministre Simplice Mathieu Sarandi lors d'une interpellation à l'Assemblée nationale.
Le seul État a été élu par le peuple. La politique du président Touadéra n'est pas de faire la guerre. Il n'est pas un va-t-en-guerre. Il a tendu la main à tous ceux des nôtres qui ont pris des armes. Voilà que nous allons apprendre, à notre grande surprise, que Nourdine Adam sort de l'ombre pour commencer maintenant à mener une campagne de dénigrement vis-à-vis du chef de l'État en le traitant d'assassin, en le traitant de criminel. Qui est plus criminel que qui ? Qui est plus assassin que qui ? Cela ne va pas changer la détermination du gouvernement centrafricain à pouvoir mettre en pratique ce qui a été défini par le chef de l'État.
Pour l'opposition politique, la réaction du chef du gouvernement ne rassure pas les centrafricains. André Nalké-Dorogo, député de l'URCA.
La réaction de M. Nourdine Adam est non seulement un défi à l'existence de notre pays, mais aussi un défi à l'autorité de l'État, donc à la République. Nous aurions souhaité que, face à ces propos, que le gouvernement de la République puisse réserver une réponse appropriée. Malheureusement, la réponse du Premier ministre, pour moi, est non seulement mitigée, mais crée le désarroi dans la population.
La MINUSCA, la mission de l'ONU pour le maintien de la paix, se veut aussi ferme. Au cours d'une conférence de presse conjointe avec le gouvernement, elle assure prendre au sérieux toute menace d'où qu'elle vienne. Ikavi Betanou, porte-parole intérimaire.
Qui dit menace de descendre sur la capitale ou ailleurs dans le pays, dit menace pour la protection des civils. On prend au sérieux toute menace. C'est par voie de presse que nous avons appris cette menace-là. Donc apparemment, la population la prend au sérieux. Donc comme nous sommes là pour protéger la population, quand la population elle prend quelque chose au sérieux, nous la prenons au sérieux également.
Dans la capitale, l'exaspération est grande. Nombreux sont ceux qui appellent à une action d'urgence contre le groupe dirigé par Nourdine Adam. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Et Kiabadou avec vous, et je vous donne rendez-vous à 18h en temps universel dans votre émission interactive À votre avis. L'ancien président zimbabwéen Robert Mugabe a négocié une retraite confortable après plus de 30 ans de règne. Il a l'immunité, un salaire à vie, une sécurité rapprochée avec 6 gardes du corps, une prise en charge de ses voyages. Que pensez-vous des avantages octroyés à Robert Mugabe? Laissez vos numéros de téléphone et commentaires ou appelez en direct à 18h en temps universel au 001 202 205 26 33 001 202 205 26 33. Rendez-vous également sur notre site www.voafrique.com.
Le chef du gouvernement italien Paolo Gentiloni a annoncé le déploiement de 470 militaires au Niger à la demande de Niamey, afin de renforcer le contrôle du territoire de ce pays par lequel transitent de nombreux migrants. Pour des précisions, Blanche Sanou a joint à Niamey Kala Moutari, ministre de la Défense nationale du Niger.
Il y a une coopération qui est née, une coopération qui s'approfondit et une coopération qui est très promoteuse au vu de ce qui est en train de se passer actuellement, au stade actuel de cette coopération. Nous avons accueilli chez nous une équipe de 10 personnes, de 10 experts italiens qui sont venus travailler avec nos forces armées nationales pour évaluer les besoins en matière de sécurité et de défense de notre pays en vue d'un éventuel appui du gouvernement italien au gouvernement du Niger dans notre lutte commune contre le terrorisme et le trafic de tout genre.
Quelles sont les attentes du Niger par rapport à cette coopération?
Nous sommes un pays à revenus assez faibles. Nous sommes un pays qui aurait souhaité investir ses ressources dans le développement de l'économie nationale. Si, sur le plan international, sur le plan régional, sur le plan africain, nous avons des pays frères disposés à nous aider, à nous appuyer, qu'il s'agisse de la formation de nos soldats, qu'il s'agisse de l'appui à l'information et à un système de renseignement, qu'il s'agisse d'équipement ou de construction d'infrastructures. Si nous avons un pays frère capable de nous aider dans l'un ou l'autre aspect de ce que je viens d'évoquer, c'est toujours un plus pour nous et c'est décisif pour nous dans cette lutte commune que nous engageons contre le terrorisme et le trafic d'êtres humains, le trafic de drogue, le trafic des armes.
Quel impact économique et social sur la population locale?
La vocation de la politique en matière de défense et de sécurité, ce n'est pas le développement, mais c'est permettre, c'est favoriser, c'est créer les conditions du développement. Nous voulons, dans le cadre de cette coopération, sécuriser notre territoire. Nous sommes un pays très vaste. Nous sommes un pays à des très grandes frontières avec des pays qui ne sont pas forcément un pays. Nous sommes un pays qui fait frontière avec le Tchad, nous sommes un pays qui fait frontière avec la Libye, nous sommes un pays qui fait frontière avec l'Algérie, désormais le Mali, le Burkina, qui n'est pas en paix. Donc nous sommes un pays entouré de foyers de tension, de foyers ou en tout cas de poches de terrorisme. Concevoir le développement dans un pays qui est aussi mal entouré, c'est une gageure lorsque on ne met pas ce qu'il faut à assurer la sécurité. Voilà ce que nous attendons de cette coopération. Assurer la stabilité de notre pays, continuer d'assurer la stabilité de notre pays, la paix et la sécurité de notre pays, avoir la maîtrise de notre frontière afin que le peuple vague tranquillement à ses occupations.
C'était Kala Moutari, le ministre nigérien de la Défense.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Burkina Faso, les travaux de l'avant-projet de la nouvelle constitution promise par le président Roch Kabore lors de sa campagne électorale ont été bouclés. Si le projet est adopté, il mettra fin à la constitution de la 4e République actuelle en vigueur. Le nouveau texte prévoit des changements majeurs avec, entre autres, un verrouillage du nombre de mandats présidentiels limité à 2. Yacouba Ouédraogo a joint Maître Ambroise Farama, ancien membre de la Commission constitutionnelle.
La limitation du mandat présidentiel était déjà consacrée. C'est que ce nouvel avant-projet consacre, c'est pratiquement l'impossibilité de modifier cette disposition-là.
Le rapporteur général de la Commission constitutionnelle, le professeur Luc-Maris Ibriga, disait que le président ne peut plus soumettre au peuple une question par voie de référendum pour ensuite réviser la Constitution. Qu'est-ce qu'il faut entendre par là?
Ça veut dire que le président d'autorité ne peut pas décider d'aller à un référendum pour modifier la question de la limitation du mandat présidentiel. Parce que d'abord, il va falloir au préalable modifier la Constitution avant de pouvoir éventuellement en partie pouvoir modifier la disposition.
Il est également prévu qu'en cas de haute trahison, le président peut être destitué par une procédure devant la Cour constitutionnelle. Ne faut-il pas craindre un dictat du pouvoir judiciaire?
Non, pas du tout. Le pouvoir judiciaire, effectivement, il est reconnu la possibilité donc de pouvoir destituer. Mais cette procédure de destitution a un mécanisme de contrôle. Vous avez également l'Assemblée, donc il y a également un contrôle politique qui est fait. De telle sorte que pour qu'un président puisse être destitué, il faut d'abord qu'il ait commis des infractions. Mais il faut également que des points de vue politiques soient lâchés.
On parle justement de régime semi-présidentiel dans l'avant-projet de constitution. Qu'est-ce que cela signifie?
Cela signifie que vous aviez donc un régime où le président effectivement a des pouvoirs, mais les pouvoirs du président sont limités également par l'action du Parlement. Et la conséquence est que le chef du gouvernement est issu de la majorité parlementaire. C'est lui qui finalement détermine donc la politique de la nation. De telle sorte que tous les pouvoirs qui sont pas entre les mains donc du président, mais les pouvoirs sont partagés entre le président et l'Assemblée.
Ce qu'on peut craindre aussi, c'est que si le président est élu directement par le peuple et n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale et donc un premier ministre qui est issu d'un parti différent, le président fait des promesses pendant sa campagne électorale. Comment est-ce qu'il va pouvoir justifier tout ce qu'il a promis s'il n'a pas la main libre pour définir sa politique?
Ah oui, ça c'est vrai, mais c'est là aussi la particularité de la nature de ce régime. Et il a des pouvoirs également, donc des pouvoirs éventuellement d'issue de l'Assemblée et de repartir à une nouvelle élection législative.
C'était Maître Ambroise Farama, ancien membre de la Commission constitutionnelle au Burkina Faso.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
En Guinée-Bissau, l'Association des écrivains a décidé de s'engager à relever le niveau d'alphabétisation dans le pays. Mais la tâche ne sera pas facile car la Guinée-Bissau a l'un des taux d'alphabétisation les plus faibles au monde. Reportage de Ricky Shyrock rendu ici par John Lindon.
Chaque mois, des membres de l'Association des écrivains de Guinée-Bissau se réunissent pour partager leurs nouvelles œuvres et soutenir par là la petite scène littéraire du pays. Avec seulement 55% de taux d'alphabétisation, les auteurs ont du mal à atteindre un large public. Pourtant, des écrivains tels que Rita Ye restent déterminés.
The writing community here is very small, always very young.
Le cercle des écrivains ici est très réduit. Ou très jeune. Jeune dans le sens où il n'y a pas beaucoup de gens qui écrivent ou publient des livres. Beaucoup de gens qui écrivent des poèmes, mais ils ne publient pas leur travail. Je voudrais voir plus de jeunes publier ce qu'ils font, ce qu'ils écrivent.
Rita Ye dit que malgré les défis, les écrivains peuvent participer à l'amélioration de leur pays et au renforcement d'une identité nationale plus forte. L'ancienne colonie portugaise a été frappée par des coups d'État militaires et l'instabilité et est classée parmi les 10 derniers pays sur l'indice de développement humain des Nations Unies.
There is some things that still hold us down.
Il y a des choses qui nous bloquent encore, qui nous bloquent toujours. Nous ne pouvons pas avancer parce que nous sommes très attachés au passé. Et nous vivons encore sous le prisme de l'indépendance et de la guerre.
Parmi les 40 membres du groupe, au moins la moitié sont des poètes. Un style qui cadre bien avec la riche histoire orale de la région. La poésie fournit également une plateforme pratique pour les travaux plus courts pour les auteurs qui sont occupés par un autre travail. L'un de ces poètes est Manuel da Costa, un major de l'armée de Guinée-Bissau. Il a également écrit sur le trafic de drogue dans le pays, un sujet dangereux. Mais il dit que la nature de la poésie lui permet de contourner tous les problèmes qu'il pourrait rencontrer.
Le langage de la poésie est subjectif. Quand vous écrivez, il n'y a que vous qui savez ce que vous écrivez. Quiconque le lit peut avoir sa propre interprétation.
Un autre auteur, Antonio Afonso D, vient de publier un livre sur comment écrire en créole, la langue locale basée sur le portugais. Il dit qu'apprendre à écrire en créole et l'intégrer dans le programme national d'éducation peut aider à développer le pays et sa scène littéraire.
Je dois le faire parce que je pense que le créole devrait être introduit dans le système éducatif en Guinée-Bissau, parce que la plupart des gens parlent le créole. Un autre facteur important, c'est celui concernant les enseignants. Ils maîtrisent mieux le créole que les autres langues qu'ils utilisent pour enseigner.
Qu'il s'agisse de poésie ou de romans, en créole ou en portugais, les écrivains de Guinée-Bissau espèrent pouvoir utiliser leur métier pour aider la Guinée-Bissau à amorcer son développement.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans Arab Show à 20h temps universel. Au menu African Music, les anciens et nouveaux morceaux africains. Hein. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. 001-202-205-2633. sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa.
La fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À la mise en onde, il y avait Joselle Morissin, à la console Michael Dubinsky. Présentation Abdourahman Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Dans quelques instants, un autre point sur l'actualité avec Henri Francisque. Au revoir.